Good morning, ladies and gentlemen.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au président, aux membres du directoire. Donc, le président du directoire, Peter Dengage Thrush. Quelle bienvenue excellente pour en ce jour qui clôture notre semaine de travail. On va commencer déjà par les rapports. On avait changé ça il y a quelques rencontres déjà pour avoir plus de temps au public forum autrefois. Et on a donc changé les choses de façon à ce qu'il y ait un bloc consacré à la présentation des rapports de façon officielle. Et la communauté semble satisfaite de ce changement. Donc, nous avons une série de rapports des comités du directoire qui ce sont en fait des travaux dont on ne parle pas suffisamment parce qu'il y a un grand travail qui se fait au niveau de ces comités et qui aide au fonctionnement de l'ICANN. La plupart d'entre eux concernent non seulement des questions d'orientation politique, mais également d'organisation interne pour nous permettre de fonctionner. Une autre série concerne les obligations d'être des membres du directoire. Et ils ont été donc revus il y a un an environ quand j'ai pris la présidence et de façon à traiter de nos responsabilités, de nos préoccupations. Donc, il y a un comité d'audit qui est présidé par Rita Rodin Johnston, qui malheureusement n'a pas pu être chez nous. Ah, ben la voilà. Vous êtes là, Rita? On était en train de parler de vous et vous venez d'arriver de New York. Quel miracle de la technologie. Nous vous voyons à l'écran, donc à l'arrière de la scène, de l'estrade. On dirait que vous êtes assise entre Susan et Harold. Non, sauf que vous avez l'air beaucoup plus à l'aise que nous. Donc, on va vous demander bientôt si vous pouvez, on va vous demander de le présenter ce rapport, sauf si vous avez demandé à quelqu'un de le faire ici pour vous. Donc, bienvenue à vous. Le deuxième comité, c'est celui de la gouvernance qui traite de sujets très importants et vous verrez les résultats de ce travail dans la matinée. Ce comité s'intéresse à vérifier le fonctionnement efficace du directoire et il s'intéresse à la formation des membres du directoire lorsqu'ils arrivent à faire le bilan un bilan sur nous-mêmes, à vérifier notre performance. Et c'est le plus important, comme on le verra plus tard, c'est la préparation d'un groupe ou d'une proposition de membres. Donc, c'est une tâche pour le BGC. Y compris le président du directoire, le vice-président du directoire et de tous les présidents de comité. Et donc c'est un des travaux principaux et Dennis Jensen nous le présentera. Il y a également le comité des finances et ça parle de lui-même et il est présidé par Birai Ramajai, et il y a tout un ensemble de responsabilités, dont entre autres la préparation et la discussion du budget et mettre au point différentes politiques comme celle des réserves et de la performance de ce fonds de réserve. Une des fonctions les plus importantes d'ICANN, c'est la gestion de la fonction IANA. Et nous avons un comité sous la présidence de Harold Alverstone qui traite de toutes ces questions relatives à IANA, y compris la performance, la satisfaction des consommateurs, les changements nécessaires. Un nouveau comité, comme celui qui est ici présent, il y a un nouveau comité, à savoir le comité de participation publique, et nous avons un ensemble d'activités. Relatif à ce sujet, ce comité a été formé récemment sous la présidence de Jean-Jacques Subrana Et un des résultats de leurs travaux, c'est la mise au point d'un procédé pour les documents pour publics. Et une partie de ce travail concerne la période de discussion qui doit être de 15 jours avant la rencontre dont il s'agit. Ils se sont intéressés à vérifier que la communauté peut participer comme ils le souhaitent. Et il y a une équipe dont vous avez entendu parler hier, par Kieran McCarthy, qui s'intéresse aussi en tant que responsable de la participation publique, qui nous a quittés hier. Il y a un nouveau comité, le comité des risques, dont l'objectif est d'évaluer les risques éventuels de notre entreprise et de notre gestion et de prendre des mesures pour les limiter. Sous la présidence de Bruce Tonkin. Et enfin, un dernier comité très important, celui des améliorations structurelles. Ce travail a repris là ce que faisait le comité de gouvernance pour gérer un processus de bilan extrêmement complet et permanent. Il y a un certain nombre de bilans qui sont prévus dans les statuts, donc qui sont obligatoires. Et ce comité facilite, anime ce procédé, ce qui permet de nommer des groupes de travail, de trouver des consultants externes, et c'est sous la présidence de Roberto Gaetano. Donc, la diapo suivante. Chaque comité a préparé un travail, un rapport de ses grands travaux, et donc va faire le point donc depuis Sydney. Et j'ai également j'ai le plaisir de vous dire que vous avez eu l'occasion de les lire puisqu'ils étaient publiés à temps et ils sont sur notre site internet. Donc pour les comités, on va passer maintenant au comité d'audit. Je vois que vous vous êtes déplacée, Rita. Rita, est-ce que vous voulez bien faire cette présentation, donc, ou est-ce que je vais demander à Harold de le faire? L'interprète a du mal à entendre. Donc, comme Peter l'a dit, depuis Sydney, nous avons beaucoup travaillé. Il y a l'année fiscale. Et nous avons travaillé avec nos auditeurs. Nous avons fait un examen de la situation. Donc, d'un côté, ce qui est très bien, c'est que les auditeurs externes ont émis un avis sans réserve et que les documents financiers ont été publiés. Et est-ce qu'il y a une diapo là pour le public? Oui, la voilà. Et il y a également une adresse URL. Certaines des choses que le comité d'audit a faites, c'est de discuter donc nous voulions que le comité d'audit travaille le mieux possible et nous avons eu des séances de formation il y a environ 2 mois à Marina Del Rey. Et nous travaillons avec les auditeurs externes pour comprendre un peu ce que nous faisions et comment améliorer. Une des choses que nous avons étudiées en particulier, c'est d'avoir une fonction d'audit interne à ICANN et d'aller un peu plus loin dans cette question de pratique idéale pour les comités d'audit et pour l'organisation. Une des autres thèmes importants, c'est qu'il y a un formulaire 990 et le comité a formé un autre, le directeur a formé un autre comité, a demandé au personnel et donc de préparer une formation concernant nos responsabilités. Donc je vais vous transmettre les questions de la part de la présidence du comité d'audit pour le directoire. Y a-t-il des questions de la part des membres de ce comité. Donc, merci Rita. Nous accepterons ce rapport de façon officielle plus tard au cours de notre réunion. Nous allons passer au comité de gouvernance et je vais passer la parole à Dennis Jennings.
We can put up the slide, first slide of the Board Governance Committee report, which covers the membership of the committee. As you can see,
du comité qui couvre les membres du comité. Si vous pouviez passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voilà les activités auxquelles nous avons participé récemment. Ce qui a pris du temps, c'était de voir les documents des différents comités et nous avons élaboré des meilleures pratiques pour l'approbation en ligne des ordres du jour en utilisant des outils en ligne plutôt que d'attendre, ce qui permet d'être plus rapide. Et on peut avoir ces ordres du jour d'ici une semaine. En ce qui concerne le comité des désignations, le NOMCOM, notre tâche actuelle est de recommander au directoire un candidat à la présidence et un candidat pour parmi les représentants de la recherche et du monde universitaire. C'est ce que nous avons réussi à faire cette année. Par ailleurs, ICANN a une politique relative à l'intérêt, au conflit d'intérêts qui a été révisée et finalisée. Et nous l'avons également mise en vigueur avec une déclaration à cet effet et le comité de la gouvernance afin d'être bien clair quant de l'action à suivre quand il y a un conflit d'intérêts lors des débats au sein du directoire. Nous avons élaboré également notre comité doit proposer des candidats pour des rôles de chef de file au niveau de du directoire et cela doit être approuvé à l'AGM. Donc il s'agit du président, du vice-président et des présidents de comité. Et l'approche cette année a été un peu différente. Au niveau du BCG, il a été décidé qu'il serait un peu plus efficace d'avoir des membres de directoire présents sur un certain nombre de comités et d'avoir des plus petits comités avec une responsabilité concomitante sur des autres membres du directoire. L'un des aspects d'un bon directoire, c'est qu'ils s'auto-évaluent de temps en temps, généralement annuellement, et c'est en utilisant des outils d'auto-évaluation pour se voir comment ils travaillent, les performances du président. Et dans certains cas, nous n'en sommes pas là, éventuellement une évaluation de la perspective de l'ensemble du directoire, notamment de chaque directeur individuellement. Et nous avons un système en ligne pour ce faire dans le cours de l'année et nous avons demandé au directoire de faire cette auto-évaluation du président et de l'ensemble du directoire et nous l'avons terminé et nous étudions les résultats et nous travaillons au niveau des différentes séances du directoire pour comprendre les résultats et pour voir quels sont les indicateurs permettant à l'amélioration de notre performance collective. L'année dernière, nous avons commencé à améliorer les processus de formation et d'introduction des nouveaux membres de directoire afin que ceux-ci puissent avoir les outils qui leur permettent de contribuer de façon efficace à la communauté et aux travaux du directoire. Et ça, c'est toujours en cours. Et nous avons des programmes de formation, notamment en ce qui concerne la gestion des risques que le personnel a mené pour nous. Et est-ce qu'il y a une autre diapositive? Récemment, vous vous rappellerez peut-être que le directoire a convenu d'établir un groupe de travail directoire GAC et nous avons établi une participation, les membres donc, et nous avons recommandé cela au directoire avec un mandat, des termes de référence élaborés pour ce groupe de travail. Et le coprésident de notre côté est Ray Pslack, du côté du GAC, c'est Heather Dryden. Et les termes de référence, le mandat est devant nous. De plus en plus, l'idée de l'indépendance du directeur est indépendante et nous en avons discuté. Et cela rentre dans le cadre des nouvelles réglementations qui régissent les organisations à but non lucratif de Californie. Donc les règles pour lesquelles les règles d'indépendance sont beaucoup plus strictes. Donc nous avons évalué cela et nous avons fait cherché à améliorer la performance du directoire en améliorant l'efficacité des processus. Et voilà, sur ces mots, je close ce rapport. Y a-t-il des questions à poser dans la salle au président du BGC? Y a-t-il des commentaires, des observations, des questions des autres membres du directoire? Si ce n'est pas le cas, nous allons passer au comité des finances et je vais demander à Rayaseka Ramaraj de prendre la parole et de présenter ce rapport. Merci, Peter.
Ce rapport a été publié il y a environ 2 semaines, donc je vais simplement souligner quelques éléments sur l'année écoulée. Un point important du comité des finances, c'est d'améliorer la transparence. Et dans ce but, vous verrez que le reporting s'est grandement amélioré, qu'il est plus clair au niveau fonctionnel. Les dépenses sont regroupées par organisation de soutien et nous continuons à chercher comment améliorer ce reporting, l'affectation des coûts et plus de transparence. Donc vous verrez ces rapports au tableau de bord. C'est l'amélioration de la transparence par l'amélioration du reporting. En ce qui concerne le fonds de réserve est actuellement positif. C'est une bonne nouvelle. Nous avons environ 44 millions dans ce fonds et nous avons réexaminé cette politique vu l'état du marché, vu notre politique d'investissement. Donc, est-ce que cette politique était toujours valable? Et nous avons eu des avis d'une partie extérieure que c'était bien le cas. Nous avons également examiné un ou deux projets concernant pour améliorer la responsabilisation. Et comme vous le verrez bientôt, il y a un cadre tant sur les dépenses pour les membres du directoire que pour les achats. Ce travail continue et sera bientôt exprimé sous forme de politique et avec une plus grande responsabilisation. Pour le budget pour l'année qui a commencé, comme j'ai mentionné à Sydney, que le comité des finances et le personnel voudrait pouvoir examiner comment ce budget a évolué, comment les différentes sources de recettes, vu les conditions de marché, et nous voulons continuer d'avoir des recettes solides, fiables, et il y a eu quelques dépenses, particulièrement avec la déclaration d'engagement et d'autres choses. On va peut-être améliorer les choses, il y en aura l'occasion de faire un bilan et de revenir vers la communauté, peut-être dans les prochaines semaines, s'il y a des changements proposés. Mais le budget doit être examiné simplement pour vérifier que les revenus et les dépenses se tiennent bien dans les limites envisagées. Enfin, nous continuons de nous intéresser à la transparence et à la responsabilisation, mais nous voulons également regarder des questions stratégiques vis-à-vis des sources de revenus, de leur durabilité et de voir ce qu'il y a d'autres éléments comme les risques financiers que nous devons étudier et d'autres éléments stratégiques pour ICANN et notre travaux. Donc, je prendrai vos questions avec plaisir. Y a-t-il des questions? Je vois que quelqu'un s'avance vers le micro. Oui, je pense qu'il y a une question. Merci. Je suis Marilyn Kane. J'ai une question qui peut peut-être se passer à un autre moment. Je vais la poser maintenant ou on verra s'il faut la retarder. De par le passé, en tant que communauté, nous avons commenté sur l'idée de trouver d'autres formes de recettes, sauf en dehors de celle qui est actuelle, c'est-à-dire de trouver de petites sources de revenus selon les commissions des registrants et de les réunir ensemble et de les passer à ICANN par les registres et les registraires. Et j'étais dans le passé, je soutenais cette idée, mais je suis de plus en plus préoccupée par le fait que ceci va en fait encourager ICANN éventuellement, comment le dire, que ICANN va se trouver en situation difficile par rapport à ses principes d'agissement dans l'intérêt public. Est-ce que votre comité va évoluer, va évaluer, étudier la méthode actuelle qui fait toujours partie, qui est du plan stratégique, examiner s'il serait justifié de le revoir ou comment ça se présente par rapport à la déclaration d'engagement. C'est une question stratégique, je le comprends bien, et je suis d'accord si vous voulez la retarder. Retarder, n'est-ce pas? Ram, est-ce que vous voulez répondre? C'est effectivement fondamental. Merci, Marilyn. Je dois dire que ça intéresse, cette question intéresse le comité des finances et le personnel. Pour renforcer nos sources de recettes. Et une des étapes, une des mesures que nous avons prises l'année dernière était d'identifier les coûts que nous allons dépenser aujourd'hui pour soutenir un certain nombre d'organisations. Donc, vous voyez, ça a été souligné. On s'intéresse à aux dépenses pour At Large, pour Croc et pour tout ça, pour que les grands chapitres de dépenses soient connus. Et ensuite, nous allons maintenant regarder les recettes. Et simplement une question pour faire suite. Merci. Ouais. En fait, ce que je mets en cause d'une certaine façon, si dans le cadre de cette déclaration d'affirmation de gérer l'intérêt public, est-ce qu'il ne faut pas revenir en arrière, revoir l'idée que, en fait, notre organisation est en situation difficile en étudiant les sources de recettes. C'était plutôt ça. Est-ce qu'on a réfléchi à cela? Non, je dois dire que je ne l'ai pas examiné sous cet angle. Merci de le souligner. Il y avait effectivement, il était envisagé que ICANN pourrait avoir obtenir des recettes de vente de TLD ou des. En fait, on a évolué, on a complètement changé d'orientation. Je ne veux pas qu'ICANN ait le rôle d'un registraire ou registrant et reçoive des fonds de la vente de TLD. C'est un sujet très très difficile. Et il y a eu différentes discussions à ce sujet et il n'y en a plus maintenant. Je passe la parole à Steve Crocker. Je vais ajouter une remarque. En fait, c'est une question vraiment très intéressante et nous l'apprécions. Je suis membre du comité des finances et j'ai participé à certaines discussions. Nous avons regardé ça sous différents angles, mais nous n'avons pas encore de conclusion, mais elle nous intéresse. C'est dans quelle mesure notre budget est en danger s'il y a des modifications importantes dans notre environnement et si nous avions une pression, disons, de faire des choses que nous ne ferions pas autrement. Donc ça, c'est un petit peu dans le cadre du présent, de la structure actuelle. Est-ce que nous sommes assez protégés actuellement? Et nous nous y intéressons, évidemment, vis-à-vis du fonds de réserve et autres discussions. Et puis la question d'ensemble, c'est est-ce que c'est bien le schéma de financement qui convient à ICANN à long terme? C'est une question beaucoup plus large. Et comme vous et Raj l'avait expliqué, la première étape, c'est d'avoir de la clarté sur les sources de dépenses et peu à peu de permettre un débat raisonnable sur le rapprochement entre les dépenses et les recettes. Il n'y a pas de réponse spécifique et tangible, mais c'est une question qui a plusieurs présentations. Merci à Steve. Ram, autre chose? Très bien. Il y a une. Bonjour, je suis Bertrand de la Chapelle. Je suis représentant du gouvernement français au GAC. Comme d'habitude, Marilyn, comme d'habitude, elle a posé une question extrêmement importante. Et merci de cette réponse. C'est un débat qui se poursuit. J'avais une remarque par rapport à un mot que Peter a utilisé, c'est étant tenant compte des revenus de la part de la vente des TLD. En fait, ça, c'est pas possible. Les TLD peuvent être éventuellement délégués, mais jamais vendus, dans aucun cas. Donc la question n'est même pas à être abordée. D'autres questions, commentaires ? Jean-Jacques.
Je vais parler en français.
Bien sûr.
Merci. J'ai une question et une remarque plutôt sur la réserve de ICANN, la réserve financière qui provient de ses revenus. J'ai posé la question il y a plusieurs mois pour savoir comment exactement était investie cette réserve financière. Et j'ai eu une réponse d'ailleurs tout à fait claire et tout à fait détaillée du principal responsable finance du personnel de ICANN, c'est-à-dire Kevin Wilson, que je voudrais remercier ici. En fait, la proportion des revenus disponibles de ICANN investis dans des produits financiers des États-Unis d'Amérique représentait moins d'un tiers du total. Je ne me souviens pas du chiffre exact, il me semble que c'était de l'ordre de 18%. Alors, je sais que ceci est en conformité avec les règles internes de ICANN. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue. Ma remarque porte plutôt sur l'opportunité, c'est-à-dire la bonne gestion de nos finances, car quand je regarde la situation économique et surtout la situation financière mondiale, je constate que les produits financiers européens, mais surtout asiatiques, dans cette crise financière, se sont plutôt mieux comportés que ceux, par exemple, de l'Amérique du Nord. Donc, c'est simplement une question de bonne gestion et d'opportunité. Je me demande s'il ne faudrait pas que nous introduisions plus de flexibilité dans cette gestion afin de mieux assurer les placements de ICANN. Donc, ma question s'adresse bien sûr au président de ce comité des finances, mon ami Ramraj. Encore une fois, il ne s'agit pas des règles internes, il s'agit simplement de bonne gestion et d'opportunités. Merci.
Ram, are you able to comment on that?
Ram, vous voulez bien répondre et après j'aurai Raimundo. Merci Jean-Jacques de cette contribution. Nous avons examiné deux de nos politiques. L'une, c'est la politique d'investissement et l'autre, c'est la politique du change. Et ces deux ont été faites, ça a été fasciné et nous avons essayé. Et je pense également de votre opinion par rapport à nos investissements à internationaux, c'est que nous ayons 30% d'investissements internationaux et 70% américains et local. Donc, effectivement, je pense que c'est une bonne idée d'avoir plus une proportion d'international plus élevée et nous allons en parler à nos conseillers en investissement et nous demander leur contribution et voir ce qu'ils ont à dire. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. C'est que nous n'avons pas de réaction immédiate, mais nous cherchons à avoir un point de vue équilibré sur ce sujet. Merci de votre contribution utile. Et Raimundo? Merci, Peter. Je voudrais faire une remarque sur la réaction de Bertrand de la Chapelle. Et je pense qu'il est très important, je voudrais souligner très important parce que c'est vrai, de toutes nos ressources, nos recettes essentielles ou critiques. Nous allons vers l'IGF et nous allons parler de ces ressources critiques. Tous les TLD, toutes les adresses sont des ressources critiques. Elles ne sont jamais à vendre.
Questions for the chair of the Dennis Jennings. Dennis.
Y a-t-il d'autres commentaires? D'autres questions? Dennis, je voudrais rappeler que ce n'est pas une question de spéculation sur les. Nous ne spéculons pas sur les monnaies et sur les marchés internationaux. Le principe de base est de faire correspondre nos revenus avec nos dépenses. Et c'est ce que nous essayons de faire au mieux. Donc, même si il y a des points de vue dans cette salle comme quoi peut-être le dollar va s'effondrer, ne prenez pas. C'est pas parce que le fait que je pense que peut-être le dollar va s'effondrer qu'il va le faire. Donc, il faut faire très attention et il faut faire preuve de prudence avec nos ressources. Merci. Je vous remercie, Dennis. Jean-Jacques. Oui, je voudrais saisir cette opportunité pour répondre directement à Dennis. Je vous remercie de cette remarque, Dennis. Ce n'est pas tant une question de savoir ce qu'un individu, un directeur a comme les convictions ou les opinions personnelles d'un directeur sur telle ou telle monnaie. Je pense qu'il y a une tendance. Par exemple, Dennis, qui, en mars 2007, a remarqué que les composantes dans la composante M3 a arrêté d'être publiée par le ministère des Finances aux États-Unis ou par la Banque centrale. C'était une indication qu'il va y avoir un problème avec le dollar. Donc, je pense que c'est notre devoir, à nous, membres de directoire, d'avoir une vue assez élargie de la situation mondiale. Et je pense qu'il serait intéressant, je conseillerais que nous allions peut-être au-delà de ce que vous recommandez, les 70%. Je pense que cette proportion devrait être plus souple. Il ne devrait pas incomber au directoire, mais peut-être au conseil du comité des finances. Je pense que les conseils proposés par le comité des finances ne viennent pas seulement des consultants habituels qui sont essentiellement d'Amérique du Nord, particulièrement des États-Unis, mais il faudrait peut-être rechercher des conseils provenant de d'autres personnes, car c'est important. Il y a 5 ans, le dollar américain représentait plus de 70%, en fait plus de 80% de toutes les devises, les réserves en devises partout dans le monde. Aujourd'hui, cette proportion est de l'ordre de 55%, alors que l'euro, par exemple, qui n'a que quelques années, représente déjà plus de 25% de toutes les devises, les réserves en devises, et pas seulement au niveau de l'Union européenne, mais partout dans le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est dans l'intérêt de d'ICANN et de la communauté de vraiment examiner cette question. Je vous remercie. Merci, Jean-Jacques. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons passer au rapport suivant. Merci, Ramaraj. Nous allons passer au rapport de l'IANA et je vais passer la parole à Harold Tvé-Alverstrand. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que je pourrais avoir les diapositives du comité de l'IANA? Intervention en micro. Nous n'avons pas de courbe. Nous n'avons pas les diapositives pour ce rapport. Donc, Harold, est-ce que vous voulez attendre? On peut vous donner une minute ou deux et Anansi peut mettre ses diapositives à l'écran. Et en attendant, on peut passer la parole à Bruce pour le comité des risques. Et Harold, cela vous donnera un peu de temps pour installer vos diapositives. Bruce. Je vous remercie, Peter. En ce qui concerne sur le site Internet de l'ICANN, dans la section liée au rapport, il y a un rapport en ligne provenant du comité risque qui porte sur notre réunion qui s'est tenue au mois de septembre et au cours de laquelle le personnel nous a présenté l'analyse des risques au niveau de l'organisation. Et cette analyse des risques a identifié 5 catégories essentielles et il y avait un nombre total de 26 risques évalués pour l'organisation en septembre. Les catégories étaient les suivantes, étaient d'une façon liées au crédit juridique, du financier, des changements dans le marché, des risques stratégiques ou des risques en termes de réputation qui proviennent généralement de l'absence de situations dans lesquelles nous n'arrivons pas à répondre à nos objectifs stratégiques. Chacun de ces risques a été évalué sur la base de la probabilité de la réalisation de ces risques. Et c'est la combinaison de ces deux éléments qui nous a permis d'établir des priorisations, des priorités de risque. Donc nous avons un cadre qui permet au personnel de planifier et de mettre en place des mécanismes pour réduire les risques. Et celui-ci sera prêt en juillet l'année prochaine. Donc il y a à partir des 26 risques identifiés au mois de septembre, combinés avec ceux qui ont été présentés à la réunion du week-end dernier. Donc nous avons, en fin de compte, maintenant, il y a une synthèse de 19 risques, dont maintenant 6 risques ont été identifiés du point de vue budgétaire et pour lesquels des mesures de protection seront mises en place l'année prochaine. Je vais vous donner quelques exemples qui sont communs quand une organisation grandit. L'un des rôles de l'ICANN est de s'assurer qu'il y a une conformité contractuelle aussi bien pour les registres que les registraires. Et un aspect clé de cela, c'est de traiter toutes les parties de façon équitable et d'utiliser les mêmes processus de conformité pour tous. Au fur et à mesure de la croissance d'ICANN, il y a de plus en plus d'intervenants et il y a des personnes de différentes régions et différentes cultures. Donc il faut bien s'assurer d'avoir un contrôle de qualité qui soit cohérent et une définition des processus qui permettent à toutes ces parties diverses d'appliquer ces règles de conformité. Et nous avons... Il y a une personne qui est affectée à cela. Une autre catégorie, c'est la continuité des opérations commerciales. Bien sûr, nous avons un bureau. S'il y a une panne dans notre bureau de Los Angeles, nous pouvons continuer nos opérations dans d'autres sites. Et suite à certains des travaux qui ont émané de l'étude sur l'extensibilité des racines, l'une des importantes fonctions que ICANN remplit est de la gestion de la racine L. Et donc, nous essayons de nous assurer de pouvoir renforcer l'infrastructure en ce qui concerne les serveurs racines dont nous sommes responsables. Enfin, autre catégorie de risque, la ressource en termes de personnel. Nous voulons nous assurer que notre tâche soit remplie et il est important d'avoir les ressources humaines adaptées aux tâches et aux engagements que nous avons pris. Et il faut pouvoir ajuster cela au fur et à mesure que de nouvelles tâches surviennent. Donc voilà en ce qui concerne les risques qui ont été identifiés et maintenant on étudie les méthodes pour réduire ces risques. Donc notamment, nous avons commencé de mettre en place ce processus de gestion des risques pour les opérations commerciales et de les appliquer à différents projets. Donc nous avons notamment des rapports qui sont en cours de rédaction sur, par exemple, les risques en ce qui concerne les nouveaux GTLD, avec des analyses de risques également en ce qui concerne d'autres projets comme le DNSSEC, par exemple. Je voudrais ici clore mon rapport. Merci, Peter. Je discutais ici avec le nouveau PDG. Donc, je vous remercie. Steve, est-ce que vous avez une commentaire? Merci, Monsieur le Président. Je travaillais, moi aussi, dans ce comité des risques. Et comme vous le savez, je vais quitter le directoire et j'ai demandé certaines choses à mes collègues, et donc je voudrais partager ces pensées. Jusqu'à présent, nous avons fait un travail un peu piétonnier, un peu lent, un peu quelconque en ce qui concerne ces tâches et les risques, notamment les risques d'entreprise. Et mais il faut quand même se préparer à des événements plus rares. Et je pense que pour traiter de ce genre de choses, il faut essayer d'identifier et de remettre en question les suppositions que nous faisons dans chaque jour de notre vie et se demander si ces suppositions sont véritablement valables quand on valide, quand on envisage l'avenir. Et par exemple, l'avenir, on se disait il y a quelques années que l'énergie serait toujours disponible et bon marché. Et puis il y a eu la crise pétrolière et ce n'est plus le cas. Notre mentalité a changé. Mais personne n'y pensait avant parce que l'énergie, le pétrole était abondant, était pas cher. Et maintenant, c'est l'eau qui devient un produit rare. Donc, je ne suggère pas que cela a un rapport avec le DNS, mais on fait des suppositions et on ne réalise même pas que l'on est en train de faire des suppositions. Et il faut se demander comment est-ce que les choses vont changer. Est-ce qu'il y a des événements imprévisibles qui peuvent se produire? Est-ce qu'on ne peut pas les identifier? Est-ce qu'on peut essayer de voir si on a des réactions en cas de si ça se produit, est-ce qu'on est prêt à ces éventualités? Je vous remercie, Steve. L'évaluation des risques est très complexe. Y a-t-il d'autres questions au comité des risques? Je reviens à Harold. Comment est-ce que c'est? Où en est votre technologie? Est-ce qu'on est prêt à entendre votre rapport? Oui, je pense que mes diapositives sont prêtes. Donc, diapositive numéro 2. Voilà les membres du comité. C'est un comité assez important en taille parce que il y a beaucoup de talents, de compétences technologiques, y compris nos deux chargés de liaison, qui comprennent très bien toutes ces données. Nous sommes rassemblés, réunis à Sydney et également par téléphone une fois entre nos réunions. Nous comptions avoir une deuxième réunion, mais celle-ci a été annulée à cause de circonstances extérieures. Nous avons fait pas mal de travail. L'aspect le plus important, c'est les changements de l'INEA, et particulièrement au niveau du DNSSEC. Bien sûr, nous nous sommes ciblés là-dessus, mais l'INEA gère d'autres fonctions, comme les adresses, le premier niveau de l'arbre de cartographie inversée. Et donc, il y a également la conversion des registres, des fichiers texte à quelque chose qui est un peu plus structuré. Donc, et notamment les services aux clients et DNS et essayer d'améliorer la capacité à échelonner, de passer à un nouveau niveau de service. Donc, notre comité ne cherche pas à contrôler tous ces aspects. On essaye de le surveiller, au moins de savoir ce qui se passe, pour bien comprendre ce qui s'y passe et pour s'assurer que les mesures adéquates sont prises. Donc voilà, ça c'était ma dernière diapositive. Y a-t-il des observations? Donc vous pouvez compter. On peut s'arrêter? Non, ce n'est pas tout à fait fini. Vous avez une question de RAM. Je vous remercie. Harold, j'ai une petite question. Qu'est-ce que l'IANA compte faire au niveau des référentiels d'IDN qui ne fait pas partie directement de la fonction de l'IANA, mais est liée? Est-ce que le comité s'est penché là-dessus? Le référentiel de l'IDN représente une fonction qui est menée et qui fait partie du registre de protocole. Et nous avons eu des demandes, des requêtes provenant de différentes sources en ce qui concerne l'enregistrement des tableaux. Le service semble fonctionner. Il y a eu très peu de commentaires à ce sujet. Quand on parle des IDN, c'est ce qui est émané de notre réunion de samedi, de ce dimanche, qui ne fait pas partie, ne rentre pas dans ce rapport. L'IANA augmente son personnel afin qu'il y ait suffisamment de personnes disponibles pour traiter du résultat du processus IDN CCTLD. Il faudra un certain temps avant d'en arriver au moment où Alinea pourra être prêt, étant donné tous les processus. Thomas, une autre question. Je voulais reprendre un peu la question des tableaux IANA. L'IANA agit par l'IETF et par les actions de l'IETF en ce qui concerne des tableaux IDN, parce qu'ils ne viennent pas du côté IETF. Ils sont arrivés au directoire et ils sont arrivés au directoire et l'IANA est autorisée à le faire dans le cadre de ses tâches. Y a-t-il d'autres commentaires, Harold? Je pense que Thomas a bien représenté notre point de vue. Y a-t-il d'autres commentaires aux présentants du comité IANA? Sinon, nous allons passer au prochain, qui est l'amélioration structurelle et qui est présidé par Roberto.
Thank you.
Merci. Le comité chargé de l'amélioration structurelle a été formé il y a un an et avait hérité de certaines tâches qui faisaient partie du BGC autrefois. La diapo, voilà une autre diapo. Donc voilà le comité que vous voyez à l'écran. Je suis président, Raimunda, Rita, Mike et Jean-Jacques sont des membres très appréciés du comité. Prochaine diapo. Ce que notre ce comité, donc son mandat du directoire est de coordonner le processus par lequel les bilans de différentes sections de l'organisation se passent, et on le fait par la création de groupes de travail. Et une autre tâche importante, c'est la coordination entre ce qui se passe au sein des groupes de travail, de façon à voir des modifications, des propositions de modifications homogènes. Autre diapo, c'est notre situation actuelle où les différents bilans en sont, ce qui a été fait depuis Sydney pour le GNSO, Nous avons maintenant, nous sommes en train de les aider à mettre en œuvre. Et comme vous le savez tous, mercredi, le GNSO nouveau format a pris sa place. C'était la conclusion. C'était une étape importante, mais pas complètement, parce que certains groupes importants ont toujours des chartes provisoires. Il reste donc des travaux à faire par le SO, les organisations de soutien, les comités consultatifs qui seront faits par mon successeur. L'examen de l'ALAC passe également la phase de mise en œuvre. Nous avons une réunion ici à Ciné, et selon laquelle le premier plan de mise en œuvre a été discuté. Et puis nous avons trois examens au bilan qui sont qui arrivent à leur étape finale pour le travail du groupe de travail. Et s'il s'agit du bilan relatif au directoire, au non-com, ou au comité de nomination, et le SAC également. Et nous en sommes à l'étape de présentation du rapport final ou des rapports finaux qui sont présentés ou qui sont publiés pour les commentaires publics. Puis le RSAC et son groupe de travail. Donc son groupe de travail a lancé son travail. Et nous avons également commencé le CCNSO. Nous en sommes à l'étape, nous commençons à nommer le consultant externe qui va faire les enquêtes, les recherches pour faire une première proposition. Et à la prochaine diapo, je vais vous parler de ce processus. Et puis la dernière, étude de bilan qui doit être faite par rapport aux exigences des statuts, c'est le ASO, et nous avons un nombre de candidats qui pourraient participer au travail du groupe de travail qui n'a pas encore été formé, et c'est une des tâches que mon successeur va recevoir. Alors la prochaine diapo. Une activité importante qui a été faite après Ciné, c'est la dernière main du processus d'examen. Comme si vous vous souvenez, au début, on avait tous les bilans qui étaient faits, se faisaient au fur et à mesure, donc quant à leur méthode et à leur façon de se dérouler. Et grâce à l'expérience que nous avons accumulée sur ce processus d'étude de bilan, nous avons donc parlé des méthodes optimales pour effectuer ces bilans, et nous avons présenté le projet aux commentaires publics. Il a été approuvé par le directoire. Nous avons maintenant un document. Qui nous indique comment effectuer ces études de bilan. Et une des étapes importantes, c'est par référence au CCNSO, c'est donc une étape importante, c'est d'avoir une méthodologie plus formelle, de choisir le consultant avec une petite équipe qui... pour en tirer les informations des propositions et de faire de recommandations pour de choix, ce qui a été fait par exemple pour le CCNSO le mois dernier. Prochaine diapo. La dernière activité de notre comité, c'est de faire de croiser toutes les préconisations et les modifications proposées des groupes de travail de façon à obtenir un ensemble cohérent de préconisations pour les améliorations structurelles sur un ensemble des éléments de l'organisation. Et ceci m'amène à la conclusion de ma présentation. Merci, Roberto. Et bravo pour ces diapos qui sont très claires et qui contiennent beaucoup d'informations. Y a-t-il des questions pour le président du comité d'amélioration structurelle? Bertrand de la Chapelle. Merci à Roberto de cette présentation. Et je voulais simplement faire un rappel concernant l'articulation de ce que vous avez mentionné à la fin entre les différents bilans qui sont en cours. Les examens ASO et CCNSO sont à venir encore, mais ceux qui sont vraiment reliés, c'est le GNSO, la réforme du GNSO, le ALAC, le NONCOM et le directoire. Le document que vous avez évoqué à la fin sur les articulations, est-ce que vous allez le présenter, le discuter au sein de la communauté ou c'est simplement pour le directoire à titre interne? Et dans cette perspective, est-ce que chacun de ces bilans va certainement demander une modification des statuts? Certaines sont importantes, d'autres non. Comme vous le savez, toutes les modifications de statuts, etc., chaque élément, c'est une espèce d'équilibre entre l'un et l'autre. Donc, si on modifie un, il y a un impact sur un autre. Donc, en tant que comité, est-ce que vous avez l'intention de présenter à certains moments une proposition de révision des statuts montrant les statuts actuels et les modifications proposées pour que les discussions du directoire, pour que la communauté puisse en parler et comprendre cet équilibre. Oui, c'est difficile de répondre simplement. Je voudrais simplement dire que ces interactions ont été analysées et on a commencé à faire cette analyse il y a longtemps. Et en particulier à Ciné, nous avons une session qui concernait justement cette interaction. Et il y a eu également des commentaires publics, ou plutôt des commentaires du public à cette session qui nous ont beaucoup aidés. Le problème, c'est que on ne peut pas attendre jusqu'à ce que tous les bilans GNSO, directoire, ALAC, NONCOM en particulier, jusqu'à ce que ces bilans soient terminés pour émettre un ensemble de statuts qui soit homogène. Donc, on essaye de le faire au fur et à mesure. Ces changements, nous les produisons dès qu'ils sont nécessaires. Par exemple, les modifications des statuts pour le GNSO avaient déjà été recommandées par le directoire et déjà adoptées. Et nous y pensons lorsqu'il y a une régression des bilans en cours. Nous avons agi de cette façon parce qu'autrement, il faudrait attendre trop longtemps pour si on essayait de faire ça d'une seule fois comme un Big Bang. Et donc la réponse, c'est un processus qui avance peu à peu vers le but final. Et à la fin, le SIC a l'intention d'avoir une vue d'ensemble de tous les changements, une vue synthétique de tous ces changements concernant les différents éléments de l'organisation. Et ce sera fait certainement comme par mon successeur, puisque je termine mon mandat comme président du SIC. C'était l'idée de départ. Donc, à un moment donné, vous aurez une vue d'ensemble des changements. Et ceci se fera lorsque les changements seront déjà pour dans l'ensemble effectués déjà. Mais en ce qui concerne la possibilité de faire des commentaires alors que chaque section de notre organisme change, mais plutôt sur un plan d'ensemble du plan général. Bertrand de la Chapelle, merci. Roberto, je comprends bien que ça n'est pas tout ou rien ou un Big Bang. Ce que j'ai compris dans votre réponse, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a un certain nombre de modifications qui sont déjà acceptées, prêtes à mettre en œuvre. Et le GNSO, la réforme du conseil du GNSO en est un exemple. Donc, ce n'est pas pour moi une façon de dire il faut attendre jusqu'à ce que tout soit prêt et avoir un seul document. Il y a le directoire prend probablement des décisions pour aller de l'avant sur un certain nombre de choses. Mais il y a d'autres processus, qui sont reliés à ceci. Voilà un exemple. Par exemple, le procédé de réforme du PDP pour le GNSO ne fait pas partie de ce type d'examen, mais c'est continu. Ça se fait en parallèle. Il y a le groupe de travail du GAC qui va traiter du rôle du GAC, non seulement vis-à-vis du directoire, mais également concernant le processus de développement des politiques du GNSO. Donc l'enjeu, là, c'est l'équilibre institutionnel. Et c'est un élément essentiel de ce cadre de responsabilisation. Donc, il y a des modifications qui doivent être faites tout de suite parce qu'elles ont été adoptées. C'est une bonne chose. Mais je voudrais encourager vivement non seulement le SIC, mais également le directoire, parce qu'il ne traite pas que de ces questions du SIC. Donc, de prévoir pour les mois à venir, et en particulier d'ici à Nairobi et éventuellement Bruxelles, de la réflexion vis-à-vis de l'évolution institutionnelle de l'entreprise sur la base de ces réformes, mais d'en présenter les éléments de forme intégrée. Le groupe de travail conjoint du GAC, l'examen du PDP, autres éléments déjà repérés, il faut à un moment donné les mettre dans un document où on voit les changements de façon à évaluer cet équilibre. Et je voudrais proposer amicalement que il s'agit là d'une question d'équilibre institutionnel pour l'ensemble. Et la communauté, dans son ensemble, a besoin d'un outil non seulement pour contribuer, mais aussi pour débattre. Et l'objectif d'un document en montrant les révisions proposées au statut, c'est qu'il doit y avoir la possibilité, à un moment donné, que la communauté puisse en débattre et simplement contrebattre. C'est un format qui nous manque et les mois à venir seront très importants. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, mais il faudra le faire il faudra le faire en ligne parce qu'on n'a plus le temps là. Simplement un mot de Roberto Di, un seul mot pour reconnaître, saluer l'assistance du personnel de tout ce processus qui était très difficile et qui a demandé beaucoup de participation de la part du personnel et Marco Lorenziani et nous a beaucoup aidé. C'est donc la fin des comités du directoire et il y a maintenant un ensemble de rapports de différents comités, dont celui des nominations.